Chapitre 8. Contenant une scène de détresse qui paraîtra extraordinaire au plus grand nombre de nos lecteurs. Jones, après s'être rafraîchi par un sommeil de quelques heures, appela Partridge auprès de lui et, lui remettant un billet de banque de 50 livres, lui ordonna d'aller le changer. Partridge le reçut avec des yeux étincelants de joie. Mais quand il vint à réfléchir, il sentit naître en lui quelques soupçons qui n'étaient pas très avantageux à l'honneur de son maître. Ce qui y contribuait encore, c'était l'effrayante idée qu'il s'était faite d'un bal masqué, et le déguisement avec lequel son maître était sorti et rentré, après être demeuré dehors toute la nuit. S'il faut dire le mot, le seul moyen possible qu'il imagina pour que son maître eût pu se procurer ce billet, était qu'il l'avait volé. Et franchement, à moins de soupçonner qu'il fût dû à la générosité de Lady Bellaston, le lecteur aura bien de la peine à en imaginer un autre. Pour ne pas compromettre l'honneur de M. Jones et rendre justice à la libéralité de la dame, je dois donc convenir que c'était d'elle en effet qu'il avait reçu ce présent. Quoiqu'elle ne donnât pas beaucoup dans ces sortes de charités devenues si communes de nos jours, telles que de bâtir des hôpitaux, etc., elle n'était pas totalement dépourvue de cette vertu chrétienne, et avait pensé avec beaucoup de raison, ce me semble, qu'un jeune homme de mérite, ne possédant pas un shilling au monde, n'était pas indigne qu'on exerçât cette vertu en sa faveur. M. Jones et M. Nightingale avaient été invités ce jour-là à dîner chez Mrs. Miller. À l'heure fixée, ils se réunirent avec les deux jeunes personnes dans le parloir où ils attendirent depuis 3 heures jusqu'à près de 5 que l'excellente femme parut. Elle avait été hors de la ville visiter une de ses parentes et s'excusa de son retard en ces termes. « J'espère, messieurs, que vous me pardonnerez de vous avoir fait attendre. Je suis sûr que quand vous connaîtrez le motif, je suis allé voir à 6 miles d'ici une de mes cousines qui vient d'accoucher. Ce doit être, dit-elle en regardant ses filles, un avis à celles qui seraient tentées de faire des mariages imprudents. Il n'y a point de bonheur en ce monde quand on manque du nécessaire. Oh, Nancy, comment vous peindrais-je la malheureuse situation dans laquelle j'ai trouvé votre pauvre cousine ? Il y a à peine une semaine qu'elle est accouchée, et où était-elle pendant tout le temps rigoureux qu'il a fait ? Dans une chambre froide, sans rideau à son lit, sans même un boisseau de charbon de terre dans toute la maison pour lui faire du feu. Son second fils, ce charmant petit enfant, malade d'une esquinancie dans le même lit que sa mère, car il n'y a pas d'autre lit dans la maison. Le pauvre petit Tommy, je crains bien, Nancy, que vous ne revoyiez plus jamais votre petit favori, car il est réellement très mal. Tous les autres enfants sont en assez bonne santé. Mais Molly, je crains bien qu'elle ne se tue. Elle n'a que 13 ans, monsieur Nightingale, et cependant, depuis que je suis au monde, je n'ai jamais vu de meilleure garde. Elle soigne tout à la fois, sa mère et son frère, et ce qui est étonnant dans une créature si jeune, elle paraît extrêmement gaie en présence de sa mère. Et cependant, je l'ai vue, j'ai vu la pauvre enfant, M. Nightingale, se détourner et essuyer en secret les larmes qui coulaient de ses yeux. Ici, Mrs. Miller fut interrompue par ses propres larmes, et il n'y eut pas, je crois, une seule personne présente qui n'en répandit aussi. Enfin, elle se remit un peu et continua en ces termes. Au milieu de toute cette misère, la mère conserve son courage d'une manière surprenante. Le danger de son fils est ce qui affecte le plus vivement son cœur. Et cependant elle fait tous les efforts possibles pour cacher même sa peine à cause de son mari. Mais sa douleur l'emporte quelquefois sur ses efforts, car elle a toujours aimé à la folie cet enfant, qui est en effet la créature la plus douce et la plus spirituelle qu'on ait vue. Je vous assure que je n'ai jamais été plus affecté de ma vie qu'en entendant le petit malheureux, qui a à peine 7 ans, tandis que sa mère l'arrosait de ses larmes, l'a prié de prendre courage. « Sois sûr, maman, disait-il, que je ne mourrai pas. Le Tout-Puissant, je t'en réponds, ne reprendra pas Tommy. Le ciel a beau être un lieu charmant, j'aime mieux rester ici et mourir de faim avec toi et papa que d'y aller. » « Pardonnez-moi, messieurs, je ne puis m'en empêcher, dit-elle, en essuyant ses larmes, tant de sensibilité et de tendresse dans un enfant. Et cependant, peut-être, il est celui de tous qui doit le moins inspirer de pitié. Un jour ou deux le placeront très probablement au-dessus des atteintes de tous les maux de l'humanité. mais c'est le père qui est en effet le plus digne de compassion, le pauvre homme. Le sentiment de l'horreur est peint dans tous ses traits, et il a plutôt l'air d'être mort que vivant. Ô ciel, de quelle scène ai-je été témoin en entrant dans la chambre? Ce digne homme couché derrière le chevet qui soutenait à la fois la tête de sa femme et de son enfant. Il n'avait rien sur lui qu'une veste légère, car son habit était étendu sur le lit pour tenir lieu de couverture. Quand il s'est levé à mon arrivée, je l'ai à peine reconnu. Et cependant, Monsieur Jones, c'était, il y a 15 jours, un des plus beaux hommes qu'on pût voir. Monsieur Nightingale l'a vu, et maintenant les yeux creux, le visage pâle et une longue barbe, son corps tremblant de froid et desséché par la faim, car ma cousine dit qu'elle peut à peine obtenir de lui qu'il mange un morceau. Il m'a dit lui-même, tout bas, il m'a dit, je n'ai pas la force de le répéter, il m'a dit qu'il ne pouvait pas supporter de manger du pain quand ses enfants en manquaient. Et cependant, pourriez-vous le croire, messieurs, au milieu de toute cette misère, sa femme a d'aussi bon bouillon que si elle était accouchée au sein de la plus grande abondance. Je l'ai goûté, et je ne crois pas en avoir bu de meilleur. Il faut que ce soit, me dit-il, un ange du ciel qui m'ait envoyé de quoi en procurer de si bon à ma femme. Je ne sais ce qu'il entendait par là, car je n'avais pas la force de lui faire une seule question. C'était des deux côtés un mariage d'amour, comme on dit, c'est-à-dire un mariage de misère. Je dois dire cependant que je ne vis jamais un couple plus passionné. Mais à quoi leur sert aujourd'hui cet amour si vif qu'à se tourmenter l'un pour l'autre? En effet, maman, s'écria Nancy, j'ai toujours regardé ma cousine Anderson, c'est ainsi qu'elle s'appelait, comme une des plus heureuses femmes du monde. Eh bien, c'est tout le contraire à présent, je vous assure, dit Mrs. Miller, car il est facile de remarquer que le sentiment de leur souffrance mutuelle est pour la femme et le mari, respectivement, ce qu'il y a de plus intolérable dans leur malheur. Le froid et la faim qui les affectent personnellement sont à peine des maux pour eux en comparaison. Les enfants même, le plus jeune excepté, qui n'a pas encore 2 ans, éprouvent les mêmes sentiments, car c'est la famille la plus tendrement unie, et s'ils avaient le simple nécessaire, ce seraient les gens les plus heureux du monde. Je n'avais jamais vu dans leur maison le moindre signe de misère, reprit Nancy, et mon cœur saigne véritablement au récit que vous venez de me faire. Oh, mon enfant, répondit la mère, elle a toujours fait ses efforts pour tirer le meilleur parti de tout. Ils ont toujours été dans une grande détresse, mais ils ont été entraînés par d'autres dans cette ruine absolue. Le pauvre homme avait répondu pour son coquin de frère, et il y a environ 8 jours, la veille même de l'accouchement de sa femme, que tous les meubles ont été enlevés et vendus à l'encan. Il avait chargé un des recors de me remettre une lettre de lui qui m'en informait, mais le vilain homme ne me l'a pas remise. Qu'a-t-il dû penser, en supposant que j'eusse pu laisser passer une semaine entière sans qu'il eût entendu parler de moi? Ce ne fut pas d'un œil sec que Jones entendit ce récit. Quand il fut fini, il prit Mrs. Miller à part dans une autre pièce, et lui remettant sa bourse, dans laquelle il y avait une somme de 50 livres, il la pria d'en envoyer à ces pauvres gens tout ce qu'elle croirait convenable. Il ne serait pas aisé de peindre le regard que Mrs. Miller jeta sur Jones en cette circonstance. Ce fut avec une sorte de transport qui approchait du délire qu'elle s'écria « Bonté du ciel, y a-t-il un pareil homme dans le monde ?» Mais revenue un peu à elle-même, « Oui, dit-elle, j'en connais un, mais il ne peut pas y en avoir un autre. »« J'espère, madame, répondit Jones, qu'il y a beaucoup d'hommes capables de sentiments d'humanité aussi simples, car on ne peut guère donner un nom plus relevé à celui qui nous porte à secourir nos semblables dans une aussi cruelle détresse. » Mrs. Miller prit alors 10 guinées que Jones eut encore bien de la peine à lui faire accepter, et dit qu'elle trouverait quelque moyen de les leur faire passer le lendemain matin de bonne heure, ajoutant qu'elle avait déjà fait elle-même quelques petites choses pour ces pauvres gens, et ne les avait pas laissés tout à fait aussi malheureux qu'elle les avait trouvés. Ils revinrent ensuite au parloir, où Nightingale témoignait prendre beaucoup d'intérêt à l'effroyable situation de ces pauvres gens qu'il connaissait en effet, car il les avait vus plusieurs fois chez Mrs. Miller. Il déclama contre la folie de se rendre responsable des dettes d'autrui, proféra les plus amères invectives contre le frère et conclut en disant qu'il souhaitait qu'on pût faire quelque chose pour cette famille infortunée. « Madame, ajouta-t-il en finissant, je suppose que vous les recommandiez à M. Allworthy. Ou bien, que penseriez-vous d'une quête qui serait faite pour eux ? Je leur donnerai, moi, une guinée de tout mon cœur. » Mrs. Miller ne répondit rien, et Nancy, que sa mère avait informé tout bas de la générosité de Jones, pâlit tout à coup. J'observerai cependant que si l'une ou l'autre était fâchée contre M. Nightingale, c'était assurément sans un motif raisonnable. Car la libéralité de Jones, quand même il l'eût connue, n'était pas un exemple qu'il fût obligé de suivre. Mille autres n'auraient pas contribué d'un seul à cette bonne œuvre, comme dans le fait il n'y contribua pas, car n'ayant pas fait d'offre positive, et personne n'ayant cru convenable de lui faire une demande quelconque, il garda son argent dans sa poche. J'ai fait une observation, et je n'aurai jamais une meilleure occasion qu'en ce moment d'en faire part au public. C'est que le monde est généralement divisé en deux opinions sur la charité, qui sont absolument l'opposé l'une de l'autre. Les uns semblent croire que tous les actes de cette nature doivent être considérés comme des dons volontaires, et que pour peu que l'on donne, ne fût-ce même qu'un « Dieu vous assiste », l'on acquiert ainsi beaucoup de mérite. D'autres, au contraire, paraissent tout aussi fermement persuadés que la bienfaisance est un devoir positif, et que toutes les fois qu'en soulageant la misère des pauvres, les riches font beaucoup moins qu'ils ne peuvent, leurs pitoyables largesses sont si loin d'être méritoires qu'ils n'ont rempli leur devoir qu'à moitié, et sont en quelque sorte plus méprisables que ceux qui l'ont entièrement négligé. Il n'est pas à mon pouvoir de concilier ces différentes opinions. J'ajouterai seulement que ceux qui donnent sont généralement de la première, et que ceux qui reçoivent ont presque toujours du penchant à adopter la seconde. Chapitre 9, qui traite de toute autre matière que le précédent. Jones alla revoir sa dame dans la soirée, et ils eurent encore une longue conversation. Mais comme elle ne roula, ainsi que la première, que sur des sujets fort communs, nous nous dispensons d'en rapporter des détails que nous désespérerions de rendre agréables au lecteur, à moins qu'il ne soit un de ceux dont la dévotion au beau sexe, comme celle des papistes à leurs saints, a besoin d'être excitée par le secours des tableaux. Mais je suis si loin de vouloir exposer au public de pareils tableaux que je désirerais pouvoir tirer un rideau sur ceux qui ont été dernièrement exposés dans certaines nouvelles françaises dont on nous a présenté des copies grossières sous le nom de traduction. Jones devenait chaque jour de plus en plus impatient de voir Sophie, et après plusieurs entrevues avec Lady Bellaston, ne voyant pas de vraisemblance qu'il obtint jamais par elle le bonheur auquel il aspirait, la dame au contraire commençant à se fâcher au seul nom de Sophie, il prit le parti d'essayer une autre méthode. Ne doutant pas que Lady Bellaston ne sût où était son ange, il pensa, et rien n'était plus probable, que quelques-uns de ses domestiques seraient aussi dans la confidence. Partridge fut donc chargé de faire connaissance avec eux, afin de leur arracher ce secret. L'imagination ne peut guère se figurer de situation plus fâcheuse que celle à laquelle son pauvre maître était alors réduit, car outre les difficultés qu'il rencontrait à découvrir où était Sophie, les craintes qu'il avait de lui avoir déplu et l'assurance que Lady Bellaston lui avait donnée de la résolution que Sophie avait prise de ne plus le voir, ce que ses précautions pour se dérober à lui ne lui donnaient malheureusement que trop de raisons de croire, il lui restait encore à combattre une difficulté qu'il n'était pas au pouvoir de sa maîtresse de lever, quelque inclination qu'elle pût avoir pour lui. C'était le danger de l'exposer à être déshérité de toute la fortune de son père, conséquence presque inévitable de leur réunion, sans un consentement qu'il n'avait aucun espoir de jamais obtenir. Ajoutez à tout cela les nombreuses obligations qu'avait en quelque sorte accumulées sur lui Lady Bellaston, dont nous ne pouvons cacher plus longtemps la violente passion. Ses obligations étaient telles que par ses bienfaits, il était alors un des hommes les mieux mis de la ville, et non seulement n'avait plus à craindre cette ridicule détresse où nous l'avons vu plusieurs fois, mais encore était dans un état d'opulence qu'il n'avait jamais connu. Quoiqu'il y ait beaucoup d'hommes qui concilient fort bien avec leur conscience la possession de la fortune entière d'une femme, sans lui en témoigner la moindre reconnaissance, pour tout homme qui ne mérite pas tout à fait d'être pendu, rien n'est, je crois, plus fâcheux que de ne pouvoir payer l'amour qu'avec de la reconnaissance, surtout quand le cœur est fortement entraîné ailleurs. Telle était la malheureuse position de Jones. Car, lors même qu'il eut totalement oublié l'amour vertueux qu'il avait pour Sophie, et qu'il laissait dans son cœur si peu de place à une autre femme, il n'aurait jamais pu payer d'un égal retour la généreuse passion de cette dame, qui, j'en conviens, avait dû autrefois inspirer de violents désirs, mais qui venait d'entrer pour le moins dans l'automne de sa vie, quoiqu'elle conservât dans sa parure et dans ses manières tout ce qui est le partage de la jeunesse, et fut parvenue même à maintenir encore des roses sur ses joues. Mais ces roses, comme ces fleurs que l'art force d'éclore hors de leur saison, n'avaient plus cette vive et brillante fraîcheur dont la nature embellit ses productions volontaires à l'époque qu'elle leur a fixée. Elle avait d'ailleurs une certaine imperfection qui rend quelquefois de très belles fleurs fort désagréables. Quoique Jones vît d'un côté tous ces petits inconvénients bien faits pour le décourager, de l'autre il sentait tout aussi vivement les obligations qu'il avait à la dame. Il ne discernait pas moins clairement l'ardente passion d'où les bienfaits qu'il avait reçus tiraient leur source, et ne se dissimulait pas que s'il manquait d'y répondre avec la même ardeur, elle le jugerait coupable d'ingratitude. Et ce qu'il y a de pis, qu'il se jugerait ainsi lui-même. Il connaissait la condition tacite sous laquelle toutes ses faveurs lui avaient été accordées, et il en concluait que si la nécessité l'avait obligé de les accepter, son honneur le forçait d'en acquitter le prix. Il s'y détermina donc quelque malheur qui dut s'en suivre pour lui, et se consacra entièrement à elle par ce grand principe de justice d'après lequel les lois de quelque pays obligent un débiteur qui n'a pas d'autre moyen de payer ses dettes à devenir l'esclave de son créancier. Tandis qu'il méditait sur tout ceci, il reçut de la dame le billet suivant. Il est arrivé depuis notre dernière entrevue un accident très ridicule, mais très fâcheux, qui ne me permet plus que je vous voie davantage au rendez-vous accoutumé. Je tâcherai de trouver un autre lieu pour demain, en attendant, adieu. Le lecteur jugera peut-être que ce contretemps ne dut pas lui causer un chagrin fort vif. Mais en tout cas, il en fut promptement consolé, car moins d'une heure après, on lui apporta un autre billet de la même main, contenant ce qui suit. J'ai changé le projet depuis que je vous ai écrit. Si vous n'êtes pas étranger à la plus tendre de toutes les passions, vous ne vous étonnerez pas de ce changement. Je suis maintenant décidé à vous recevoir ce soir dans ma propre maison, quelles qu'en puissent être les conséquences. Venez chez moi à 7 heures précise. Je dîne dehors, mais je serai rentré environ à 7 heures. Je sens que pour ceux qui aiment sincèrement, un jour est plus long que je n'imaginais. Si le hasard voulait que vous arrivassiez quelques moments avant moi, vous vous feriez conduire au salon. » À dire vrai, Jones fut moins satisfait de cette dernière épître qu'il ne l'avait été de la première, en ce qu'elle l'empêchait de se rendre aux sollicitations pressantes de M. Nightingale, avec lequel il avait contracté beaucoup d'intimité et une sorte d'amitié. Ces sollicitations avaient pour objet d'aller avec ce jeune homme et sa société à une nouvelle pièce que l'on devait représenter le soir, et qu'un très grand parti était convenu de faire tomber par haine contre l'auteur, qui était ami d'une des connaissances de M. Nightingale. Et notre héros, nous sommes honteux de l'avouer, eût préféré de bon cœur cette espèce de divertissement à l'obligeant rendez-vous qui lui était donné, mais son honneur l'emporta sur son inclination. Avant de le suivre à cette entrevue projetée avec la dame, nous croyons à propos d'expliquer le motif des deux billets précédents, d'autant qu'il se pourrait que le lecteur ne fût pas peu surpris de l'imprudence de Lady Bellaston, qui faisait venir son amant dans la maison même où sa rivale était logée. Premièrement donc, la maîtresse de la maison où ses amants s'étaient jusqu'alors réunis, et qui avait été pendant plusieurs années au gage de cette dame, était devenue méthodiste. Elle avait le matin même passé chez elle, et après lui avoir reproché avec beaucoup de force les erreurs de sa vie passée, lui avait déclaré positivement qu'elle ne voulait plus, sous aucun prétexte, servir désormais à ses intrigues. Le trouble où cet accident avait jeté la dame l'avait fait désespérer de trouver aucun moyen de voir John ce jour-là. Mais quand elle commença à se remettre un peu de l'agitation que ce contretemps lui avait causée, et qu'elle se fut mise à réfléchir, il lui vint heureusement dans la tête de proposer à Sophie d'aller au spectacle, ce qui fut accepté par elle sur le champ. Lady Bellaston lui procura une dame pour l'y accompagner. Mrs. Honora et Mrs. Itoff furent aussi écartées, sous prétexte du même plaisir, et par ce moyen, sa maison fut libre de recevoir sans danger M. Jones, avec lequel elle se promettait 2 ou 3 heures de conversation non interrompue à son retour du lieu où elle avait dîné. C'était chez une femme de ses amies, dans un quartier assez écarté de la ville, près du lieu de leur ancien rendez-vous, où elle s'était engagée avant d'avoir été parfaitement instruite de la révolution arrivée dans l'esprit et dans la morale de son ancienne confidente.